8h13, priorité au direct. Emmanuel Macron qui vient d'arriver au Grand Palais pour cette émission spéciale à 100 jours donc des Jeux Olympiques, interrogé par Apolline de Malherbe et toute l'équipe olympique de RMC. Le général Pellistrandi nous a rejoint sur le plateau de première édition. Jérôme, bonjour. Et puis Thierry Arnaud. Évidemment, la première question au-delà des Jeux qui va être posée au président de la République, c'est sa réaction après l'attaque de l'Iran, donc sur Israël. La France a joué un rôle dans l'interception des missiles.
La France a joué un rôle dans l'interception, un rôle comparable à celui des États-Unis ou du Royaume-Uni, mais expliqué de manière différente. Autant à Washington et à Londres, on a assumé le fait de participer à cette opération avec pour premier et unique objectif de défendre Israël. L'explication donnée à Paris est que l'objectif premier était de défendre les installations militaires françaises. Il y a beaucoup de bases dans la région, il y en a en Jordanie, il y en a en Irak, il y en a aux Émirats Arabes Unis, et que par conséquent, puisqu'on intervenait et puisqu'on interceptait, de fait, on contribuait aussi à défendre Israël, mais ça n'était pas nécessairement l'objectif premier de l'intervention française.
Alors, il y a une réunion très importante, évidemment, du cabinet de guerre israélien autour de Benjamin Netanyahou. Toute la question est de savoir si Israël va riposter ou pas. Voici le tempo donné par Benny Gantz, membre de ce cabinet de guerre.
Face à la menace iranienne, nous construirons une coalition régionale et ferons payer le prix à l'Iran de la manière et au moment qui nous conviendront. Et surtout face à la volonté de nos ennemis de nous nuire, nous nous unirons et deviendrons plus forts.
Le risque tiré, bien sûr, c'est l'embrasement de la région.
Oui, alors il y a deux informations essentielles dans cette déclaration de Benny Gantz. La première, c'est qu'il y aura une réponse israélienne, ce qui n'est pas une certitude. Et ce dont Joe Biden voulait dissuader Benjamin Netanyahou, donc il y aura une réplique.
Mais de quelle ampleur ?
Voilà. Et alors, effectivement, de quelle ampleur, c'est toute la question. Au moment et dans les circonstances qui nous conviendront, dit Benny Gantz, ça veut dire qu'Israël veut quand même se donner le temps de réfléchir à la réponse possible et donc n'a pas totalement été sourd aux avertissements relatifs au risque d'escalade.
Est-ce que le compromis de la part d'Israël serait une réponse proportionnée ? En frappant par exemple les positions du Hezbollah au sud du Liban, le Hezbollah pro-iranien.
Oui, c'est une réponse possible, effectivement, parce que le Hezbollah, c'est le proxy, c'est le mandataire.
Ça, c'est un mot qu'on entend tout le temps depuis quelques jours, oui, les proxys. Ça, oui. C'est nouveau dans le verbiage diplomatique, les proxys.
Il faut traduire.
Oui, c'est le mandataire, c'est-à-dire que c'est l'intermédiaire qui agit au fond, qui est instrumentalisé, si vous voulez. C'est le bras armé de l'Iran au sud du Liban, qui est déjà de toute façon en conflit avec Israël. Une réponse proportionnée est possible. Il est clair que dans la mesure où il va répondre, le Premier ministre israélien y est plus qu'encouragé par la communauté internationale et notamment par les États-Unis. Simplement, on est obligé aussi de constater, Christophe, que jusqu'à présent, la méthode israélienne, ça a été toujours de répondre de manière disproportionné. Regardez ce qui s'est passé à Gaza.
Bon, les moyens, évidemment, engagés vont compter beaucoup, général Pellistrandi. On sait qu'Israël est évidemment engagé contre le Hamas depuis le 7 octobre. Est-ce qu'Israël a les moyens de soutenir de front ?
Oui, Israël a les moyens de soutenir de front, d'autant plus que le type de riposte à envisager, eh bien, soit se fait avec l'aviation. L'aviation, donc Israël a les capacités, soit avec d'autres méthodes, par exemple neutraliser les installations nucléaires donc sur le territoire iranien. Donc oui, Israël a les moyens parce qu'il ne
s'agit... Quand on dit ça, là, on serait dans la surescalade.
Pas forcément. Pas forcément, parce que par exemple, ralentir le programme nucléaire militaire iranien, c'est extrêmement important, mais on n'est pas dans l'escalade, justement. C'est-à-dire que ça permet de rester sous le seuil, parce que l'objectif, c'est d'éviter, effectivement, un embrasement avec un engagement militaire. Et déjà, une certitude, il n'y aura jamais de forces terrestres israéliennes qui vont aller en Iran. Donc, ce sera quelque chose de spectaculaire, mais dans le temps, et donc sans forcément vouloir détruire tout ce qu'il y a. En fait.
On l'a vu avec cette attaque sans précédent, on le voit aussi en Ukraine, cette nouvelle forme de guerre avec les drones, qui peuvent, capacité de nuisance maximale. Là, ils ont été arrêtés grâce au dôme de fer. Mais c'est ça, la guerre moderne ?
Alors, il est clair que, effectivement, les drones jouent un rôle très important. Ce que l'on constate néanmoins, que les drones qui ont été utilisés par Téhéran, les mêmes utilisés par les Russes contre l'Ukraine, finalement, ne sont pas très efficaces, ils sont relativement faciles à détruire. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conflit sans utilisation d'une panoplie très large de drones.
Joe Biden a des chances d'être entendu. Il a dit qu'il ne soutiendrait pas une réponse israélienne à l'attaque iranienne. Oui. Est-ce qu'il va être entendu ?
Alors, on peut dire que dans une certaine mesure, il a déjà été entendu, puisque Israël a choisi de se donner le temps et de ne pas répliquer immédiatement. Ça signifie qu'il y aura certainement dialogue entre Washington et Jérusalem sur quel est le plan de réponse. Et il est certainement envisageable, sinon probable, que les Israéliens soumettront leur plan de riposte aux Américains avant d'y procéder.
Parce qu'il y a un enjeu également important, et Nicolas Dose l'évoquait ce matin, c'est l'enjeu économique. D'ores et déjà, ça bouge sur les marchés pétroliers et on redoute évidemment une flambée des cours du baril.
Oui, alors ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est quelques dollars sur le baril dans l'espace de quelques heures. Bien sûr, dans l'hypothèse où la région s'embraserait dans son ensemble, là, on reviendrait à de tout autre ordre de grandeur. Je vous rappelle, par exemple, ce qui s'est passé au début de la guerre en Ukraine. Le baril, il est aux alentours de 90 dollars à peu près aujourd'hui. Dans les premiers jours de février 2022, il était monté jusqu'à 120, 130, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer, si ça se produit de manière durable, sur non seulement les prix à la pompe, mais l'économie de manière générale.
On a vu ces élus au Parlement iranien, point levé, fêtant une victoire, mais c'est quand même un échec militaire. On le disait à l'instant, les drones, aucun n'a atteint la moindre cible.
C'est évidemment un échec militaire dans la mesure où il n'y a eu quasiment aucun dégât.
Mais vendu comme un succès, comme une victoire.
Très peu. Oui, mais politiquement, il n'y a rien de spontané, évidemment, dans les manifestations que vous évoquez. C'est aussi un échec diplomatique, dans une certaine mesure, et ça, c'est important à relever, parce qu'on avait le sentiment qu'avec ce qui se passait à Gaza, Israël était de plus en plus isolé, critiquer la politique contestée, y compris par les alliés les plus solides, à commencer par les États-Unis. Eh bien, ce qu'on constate là, c'est que la coalition de soutien à Israël, elle s'est reconstituée.